Ici Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Vous écoutez Les Drôlistes.
Le podcast Les Drôlistes est une présentation de Pierre-Luc Deschamps, Nicolas Tremblay, Éric Olivier, Kevin Collin et le canard. Ouais, c'est ça. Podcast Les Drôlistes sera bienvenu. Et oui, j'espère que vous avez profité de l'épisode qu'on vous a mis en début de semaine. En voici un autre. Et oui, on se rattrape, comme je vous l'avais dit. Et maintenant, on passe aux aventures de Coriolis. Et oui, ce nouveau jeu, nouveau système que j'ai particulièrement adoré. Ça, c'est une autre belle découverte. Autant Aliens était ma belle découverte de l'année passée. Je pense que 2020, ça s'aligne pour être ma grande découverte. Quoique l'année n'est pas terminée, on prend à se doter d'autres jeux à venir. Mais je dois dire que pour l'instant, là, c'est autant Shadowrun 6e édition était un coup de poing d'en face. Ça, c'est vraiment l'élément le plus intéressant que j'ai eu dans l'année jusqu'à maintenant. Et oui, je suis très content de pouvoir jouer à ce jeu avec une ribambelle de joueurs là, que vous connaissez. Donc, il y avait Yann Richards, Jean-Philippe Descailles-Mathieu, Vincent Thibault, Martin Durette, Antoine Biron, qui se joignait à moi à la barre pour jouer à ce jeu particulier hein, qui est un mélange d'espèces de science-fiction et de mythes moyen-oriental. Bref, bien aimé l'univers, bien aimé la construction aussi du jeu. C'est un jeu dont la prise en main se fait très bien. Un peu plus complexe qu'Aliens sur certains aspects, mais quand même très intéressant. Un peu plus complexe, mais un peu plus complet aussi. Il y a beaucoup d'éléments de progression. Et puis, contrairement à Aliens, où la dynamique est extrêmement psychologique et le but, c'est essentiellement de mettre un peu les joueurs les uns contre les autres, ça, on est dans une autre dynamique où, en fait, c'est vraiment un équipage qui doit se tenir et il y a des forces à l'équipage et tout est construit autour de cet équipage-là, même si chaque personnage a ses éléments très personnels. Bref, super intéressant. Ça permet aux joueurs notamment de choisir ensemble qu'est-ce qu'ils vont faire. Par exemple, mes joueurs ont décidé de faire un groupe d'explorateurs, mais ils auraient pu prendre un groupe de mercenaires, par exemple, ou de gens qui auraient des rustleurs ou des choses comme ça. Bref, c'est super. J'aime vraiment la mécanique. Et puis, encore une fois, Free League Publishing ont fait un excellent travail. Je veux dire que je suis toujours impressionné de la qualité de leur ouvrage, notamment de la qualité de l'art qui en ressort. C'est vraiment magnifique. Puis je sais que j'ai fait tirer un livre. J'espère qu'il a été apprécié. C'est un très beau livre, magnifique. Et on remercie Free League Publishing de nous avoir permis de faire tirer ce livre-là à nos auditeurs. Et on vous rappelle également le concours hein, de Shadowrun. Donc, je vais aller sur la page des drôlistes, page Facebook, liker, vous mentionner pourquoi qu'on vous devriez recevoir le livre et juste partager la page. Ça fait en sorte que vous partagez comme vous partagez en fait et vous participez au concours et vous courez donc la chance de gagner ce petit livre-là de Shadowrun, le Core Rulebook Master Index Edition 5e édition qui est en excellent état et je vais faire le tirage à la fin de la semaine. Donc, je vais le publiciser d'ailleurs. Ou en fin de semaine, je vais vous laisser un petit peu de temps. Là. Mettons début de semaine prochaine. Lundi prochain, on va faire ça. Puis, si vous êtes intéressé, ça vous laisse le temps. Puis, je vais le relancer sur Facebook, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Et oui, donc c'est tout ça. On vous rappelle également le Patreon, hein, si jamais vous êtes intéressé à appuyer les activités du podcast. Vous pouvez aller sur le Patreon des Drôlistes et puis nous donner un petit montant par mois, ce qui fait en sorte que l'on survit et qu'on puisse payer du matériel quand ça casse, du matériel de jeu aussi, payer l'infrastructure qui nous permet de faire les enregistrements. Actuellement, ben, vous voyez, là, c'est sûr que la pandémie joue contre nous, mais tout l'enregistrement, là, tout le matériel d'enregistrement qui était utilisé pour la partie, essentiellement, c'est ça que vous payez. On ne vous fera pas une scène avec ça, je peux vous garantir. mais il y a aussi des fois des petits concours, des trucs qui sont exclusifs aux membres, des vidéos, des choses comme ça. Bref, on vous remercie de votre support indéfectible. Il y en a qui sont là depuis le début, puis on vous remercie infiniment. Là. C'est on est très content de vous savoir parmi nous et on est très heureux de savoir que vous, vous aimez nos activités parce qu'il y en a plusieurs qui nous font signe. Hey, c'est vraiment cool. On aime beaucoup l'activité des drôlistes. Anciennement, Fly Casual. Eh oui. Donc, je vous laisse là-dessus. On s'en va rejoindre notre Biggie Bambel Explorateur. On revient tantôt. Bye!
Troisième horizon. Rejoignons un groupe d'explorateurs à la recherche d'artefacts rares. Notre équipage est composé d'Actarus Recrem, joué par Ian Richards, Jakub Cotter, joué par Jean-Philippe Descaries-Mathieu, Kiera Nucero, joué par Vincent Thibault, Desmond Adriel, joué par Martin Durette, et Altifa Nadir, joué par Antoine Biron. Débutons l'aventure.
Pas que j'ai pimpé le programme et je pogne toutes des 6, mais un détail.
Ouais. Mal voir assez vite.
Je vais regarder ta face et je vais faire. Ok, je marque mon coup.
Ok, donc. Il est bien bon dans la détection d'algorithmes douteux.
Je vais juste vous demander de présenter vos personnages, puis ensuite, de ça, on va faire le tour du crew. Donc, il y allait avec Monsieur Richard.
Déjà?
Ouais, ben, c'est un peu pour ça qu'on est là.
OK, moi, mon personnage s'appelle Actarus Recrem.
Oh, ah oui, belle référence.
Pourquoi bou?
On l'aime à gratuit.
Tout à fait. Moi, j'ai grandi sur une station spatiale. Puis mes parents, ils ont ruiné pas mal notre famille. J'ai toujours commencé à travailler bien, bien jeune. Puis j'ai été entouré de mécanique là, toute ma vie, tout ce qui est réparé, des ordinateurs, des systèmes de chauffage pour la base, pour la station spatiale, tout, pour aider mon père à rembourser ses dettes. C'est que j'étais tellement insulté que ce que j'ai fait, c'est que mon nom de famille, je voulais pas être reconnu comme être un trou de cul comme mon père, c'est que j'ai inversé mon nom de famille. C'est qu'à la place de le mettre en ordre, je l'ai reviré de bord. C'est que le nom de mon père, c'était Mercier, mais moi, je l'ai changé pour Récrème.
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
Je l'ai pas vu venir pantoute.
Je ne l'ai pas identifié à mon père. Comme ça, si les Shylock partent après, ils partiront pas après moi. T'sais.
Oh, wow, c'est écœurant.
Oh, my God. Hey, mais tu sais quoi, le pire, Yann, c'est que dans ma famille, je n'aimerais pas de nom, il y a une histoire tout à fait similaire. Fait que...
Vrai?
Ouais, ouais, ouais.
J'ai inventé ça, là. Ben, je l'avais inventé en faisant mon personnage, puis je riais. Soit je suis un peu déçu que ce soit pas là. Puis, c'est qu'aussitôt que j'en ai eu la chance là, d'avoir un vaisseau, quand je suis devenu ami avec vous autres, là, vous aviez besoin de quelqu'un pour réparer un vaisseau, se m'occuper de l'entretien et tout. J'ai tout de suite dit that's it. Je crisse mon camp de la station spatiale, puis je pars à l'aventure.
Cool.
Puis, oui, j'ai de l'air. J'ai les cheveux bruns, les cheveux courts. J'ai un petit peu de gris dans les cheveux, clean cut, puis ce que je porte, je l'ai déjà ici, j'ai comme des short cargo, puis avec un bomber jacket, là, pas de manche, puis vu que je fasse des réparations dans la station spatiale, soit à l'extérieur ou à l'extérieur du vaisseau, un de mes systèmes de départ, c'est un exoshell que j'ai, là, qui me permet d'aller à l'extérieur du vaisseau pour faire des réparations.
Parfait. OK. JP?
Fait que moi, je suis Jakub Cutter. Mon background, c'est un zénithien du core system de Kua. Je suis un data spider, donc c'est un concept de data djinn, espèce d'autiste qui est toujours dans les ordi, genre, bref, un peu comme moi. C'est pas vraiment un personnage que je joue. Non, mais c'est vrai, c'est un gars, tu sais, assez traditionnellement solitaire, tu sais, lui, il est toujours dans les données, puis il hoard plein de données, il y a toujours il y a des serveurs partout dans la galaxie, genre, où est-ce qu'il peut se connecter. Il peut toujours trouver de l'information, il a toujours accès à tout, c'est un hacker, genre, un peu typique, là.
Tu voulais vraiment sortir de ta vie normale. De
oui, absolument. C'est, ouais. La seule différence, c'est que lui, il a des cheveux. Ah. non, mais tu sais, quand même, un gars capable de travailler en équipe aussi, tu sais, puis son plus gros problème, ce gars-là, c'est évidemment, c'est que lui, si tu lui dis « va pas là », lui, il va le faire. S'il y a un bouton rouge marqué « do not push », il va poser tout full de fois.
Comme toi, finalement.
Un petit peu, oui. C'est un peu basé sur moi. Mais en fait, c'est un mélange de... Ça peut sembler arrogant, c'est un peu un mélange de... Ben, on a tous des volets de nous dans nos persos, ouais. On s'entend, là, mais c'est un mélange un peu de moi, mais aussi du personnage de Henry Dorset Case dans Neuromancer. J'ai déjà joué aussi un personnage similaire à lui dans Shadowrun, dans la 5e et 6e édition qu'on avait joué. D'où, si vous me demandez pourquoi Cutter, nom de famille, c'est Cutter, en fait, c'était le surnom du personnage principal dans Neuromancer. C'était son nom de hacker, en fait. Fait que, cool. C'est basé là-dessus. Sinon, toujours un petit sourire en coin, yeux sombres. Établi très de manière où ce que les manteaux sont toujours plein de poches. Il y a toujours une tablette ou un téléphone ou un laptop poche. Il est habillé de manière assez utilitaire. Il y a des protective clothing que je me suis acheté. Là, fait que j'ai un armor de 3 parce que ma force n'est pas très élevée. Là, fait que point de vie, je suis un peu vulnérable. Mais tu sais, c'est mon background est dans les données puis ce genre de truc-là. C'est pas la force en tant que tel. Je suis intelligent, mais je suis pas fort, mettons. Fait que, ouais, j'ai des skills, mettons plus au niveau des skills. J'ai 1 en observation, 3 data djinn, 1 pilotage. Fait que si jamais le capitaine s'attend, je peux toujours la faire un putsch contre lui. 2 en science, 3 en
attention, technologie. Pilotage, puis l'autre c'est command, hein? C'est pas la même chose.
Ouais, c'est vrai. Ah. Sinon, je suis l'opérateur de senseur sur le USS Kenzo. USCCSS, whatever. Là. Le Kenzo.
Le Kenzo.
Le Kenzo.
Et Vincent?
Oui. Mon personnage s'appelle Kieron Lucero. Donc, un personnage, un passé un peu obscur, qui aime pas vraiment parler de qui il est, de d'où il vient. C'est vraiment quelqu'un, ne vous avisez pas de me poser des questions par rapport à ça, je risque de mal réagir. J'ai beaucoup vécu dans une philosophie...
More Edgelord!
J'ai toujours vécu dans une philosophie de kill or be killed. Fait que, je suis un peu aussi dans une idée de toujours de me rendre au bout des choses à tout prix. Donc no matter what. Sinon très introverti comme personne, un homme de peu de mots. Sinon le problème de mon personnage, je suis chauve. Ah non, c'est pas ça. <Mon histoire. rire>
C'est pas un problème, tu seras une solution.
Ah oh fuck, fallait pas que je le dise.
Donc justement, mon apparence, je suis chauve, j'ai des vieilles goggles que je traîne tout le temps sur ma tête. C'est ça, petite barbe mal rasée. Mais tu vois, là, je suis sorti de ma zone de confort. Sinon, c'est ça, un peu comme JP, des vêtements, non? Donc, des vêtements avec beaucoup de poches, beaucoup de stock, parce que au-delà de ça, je suis quelqu'un qui adore découvrir des choses. Puis comme j'ai dit tantôt, je veux me rendre au bout des choses à tout prix. Je vous vois un peu plus l'équipage comme étant un moyen à mes fins. Donc, j'aime découvrir des artefacts, ce genre de choses-là. Donc, de me tenir avec vous, ça me fait pas particulièrement plaisir, mais ça me permet d'atteindre mes objectifs. Donc,
OK, un gars social, là.
Exact. un profiteur.
Et voilà. Je me qualifierais pas comme ça quand même, Yann.
Un optimiste.
Fait que, ouais. C'est pas mal ça.
Martin?
Fait que, dans le fond, mon personnage, il s'appelle Desmond Adriel. C'est un healer, un clair, un médic, finalement. Je viens d'une famille aisée. Donc, j'aurais pu me la couler douce, mais à un moment donné, dû à la venue j'ai les ions, là, mais c'est pas eux autres, là, les intérims, c'est ça? Ceux qui sont venus sur la planète?
Oui, ouais.
Attends, tu parles des...
Il y en a deux, en fait. Il y a
des initiés, là.
Les Raéliens.
Ouais, de toute façon, je vais vous rappeler toute la lore là, pour être certain que tout le monde soit au même niveau.
Mm-hmm. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait déjà, je pense, comme deux ou trois générations qui sont venues de mémoire, là, quelque chose comme ça.
Un peu plus que 500 ans.
Ouais.
Bon, ben tu vois, dans le fond, ma famille serait comme une famille vraiment aristocratique depuis très, 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 très longtemps, qui pense juste à leur petit nombril. Puis depuis l'arrivée de eux, moi, je les ai toujours trouvés fascinants. Puis, tu sais, ils sont venus comme nous aider de relancer un peu la vie, parce que, tu sais, on était tous reculés. D'ailleurs, tu sais, ça m'a permis comme de dire, OK, go, moi aussi, je veux aider mon prochain. Fait que j'ai comme pris... l'argent de la famille, tu sais, j'ai pu faire mon éducation à ce niveau-là et tout, et puis je me suis pas gêné, mais je vis pas le mode aristocratique, c'est vraiment, je suis là pour aider les autres, puis un peu comme JP, là, lui qui passe une vrille, là, moi c'est un peu le principe, c'est que si je décide que je te prends sous mon aile, au niveau de je vais faire attention à toi, puis je vais trouver la vie, si je manque mon coup, ou vraiment t'es blessé gravement, ben c'est vous allez voir que je vais m'auto-infliger des sévices. Là. D'où l'apparence de mon personnage, j'ai plusieurs cicatrices sur le corps. Fait que tu sais, j'ai perdu des amis.
Fait que tu pratiques l'auto-flagellation.
Ouais, c'est comme une punition. Si je suis pas capable de vous tenir en vie, ben je me fais une marque pour pas oublier que j'ai perdu des compagnons ou j'ai failli à ma tâche là, que je prends ça très au sérieux.
Et puis, beaucoup de marques?
J'en ai quelques-unes, c'est pas des grosses, bon. Mais j'en ai une grosse qui me part vraiment au niveau de la figure qui passe. T'sais, j'ai pas perdu l'œil, là, mais j'ai vraiment une grosse. Ça n'a aucun rapport avec moi qui l'a fait.
Okay.
Ça, c'était durant un combat en essayant de sauver un enfant. Essentiellement, ça va être ça. Puis le fait d'être dans un crew, c'était vraiment de dire on va découvrir. Puis j'ai toujours été fasciné un peu comme Vincent au niveau des artefacts. J'ai un paquet de documentation, mais je ne sais pas tant m'en servir. Fait que j'ai trouvé un ami en tant que GP pour ça.
Nice.
Fait que j'ai une super bonne base de données, très riche au niveau des artefacts, mais je ne suis pas capable de l'exploiter à son plein potentiel. Fait que ça aurait pu être une des façons qu'on se serait rencontrés.
Grosso modo, c'est ça. Au niveau de l'apparence, très 5 pieds 10. Moi aussi, j'étais chauve. Donc, un peu un style... je cherche le nom, là, mais... voyons, Colin, je n'ai pas à le dire. Assassin's Creed, c'est vraiment le gros chapeau. C'est vraiment comme la toge remis par-dessus. Comme des vieux moines là, dans le temps médiéval. Fait que tout en blanc et rouge.
Cool.
Fait que c'est un peu l'apparence de...
OK. Antoine?
Alors, mon personnage, son nom, c'est Alifa Nadir. C'est un zénithien de Coriolis. Pilote pratiquement de naissance parce que ma famille, depuis des générations, on est dans le transport. Et j'ai décidé de suivre cette voie-là. Mais dans le fond, ma famille a été mise à mal par notre némésis qui s'appelle... comment il s'appelle, donc? Amadi. Suite à un accident ben niaiseux, là, mais avec son service de nouvelles fake news,
de bulletin.
Là, comme on pourrait dire. Il a vraiment là, mis l'entreprise de mon père à terre, puis mon père, écoute, il est mort de chagrin. Là, il est mort de ça, puis ma mère a suivi pas longtemps après. Fait que c'est mon némésis, pas pour rien. Et dans le fond, moi, mon but dans la vie, c'est outre le pilotage, là, c'est vraiment de faire tout ce que je peux pour défaire la carrière de Amadi. Fait que idéalement, mais je suis pas rendu là parce que j'ai pas les ressources qu'il faut, là, malheureusement.
On va les avoir.
Puis ton personnage ressemble à quoi?
Alors, mon personnage, il est quand même relativement petit, assez très basané. Là, je veux dire, c'est un noir d'ébène. Là, fait que il est tout à fait très foncé. Complètement chauve.
Eyeball crew, man.
Oui, oui, oui. Ah, oui. 5 pieds 4 à peu près. Très mince. Et il porte un... Dans le fond, un vieux fly suit en cuir avec des revers en mouton que son grand-père avait puis que lui décide de porter encore. Mais il y a une espèce de ceinture yéménite pour son pistolet. Et j'ai un œil cybernétique là, pour la viser. Fait que voilà, mais ma vie, c'est vraiment le pilotage. Je me suis quand même entraîné au tir pour éventuellement peut-être rencontrer mon némésis et avoir le dessus sur lui.
Voilà. OK. Juste peut-être décrire rapidement votre crew, vos objectifs de crew puis votre vaisseau rapidement, juste pour le bénéfice des auditeurs.
Alors, je vais parler du vaisseau un petit peu. Parce que, dans le fond, nous, on a un Express Fighter de chez Leb, qui est le modèle CC-33, si je me trompe pas, qui est un classe 3, donc 4 ponts, une passerelle assez spacieuse, parce qu'on je l'ai réaménagé pour qu'on soit à 5 sur la passerelle. À l'origine, puis là, c'est ça, justement, on parlait tantôt là, de la configuration du vaisseau. Moi, j'ai pris celle qui était à la page 366. Je l'ai modifié un petit peu là, pour accommoder notre crew à nous autres. Celui à page 366, pardon, il y avait 7 cabines plus une suite.
Ouais, fait que c'est correct. C'est ça que vous avez là.
C'est ça, fait que...
Cette cabine, vous êtes en masse, là, mais là, il faudra voir c'est qui prend la suite.
Ben, il n'y a plus de suite. Moi, j'ai enlevé la suite. Il y a quand même un divan-lit dans ce qui était la suite. Par contre, j'ai transformé la suite en salle de réunion et salle de loisirs. J'ai pensé que ça serait plus utile qu'une suite. Puis comme on est un crew qui n'a pas de... Pour moi, là, évidemment, là, c'est ma vue de pilote puis de capitaine. Moi, je vois mon crew comme tout égal. On est ensemble pour prendre des décisions. Je suis capitaine, mais je suis pas un dictateur. Là. Je vois ça comme une petite démocratie, là, de la manière que ça se passe à l'intérieur de...
Et que t'es naïf.
Oui, je sais. mais en tout cas, c'est la vision que j'ai de ça et comment j'ai fait aménager le vaisseau quand on l'a acquis. C'est ça reflète ça, là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espace commun. Puis l'idée, évidemment, c'est que le crew au complet sente justement qu'il est impliqué puis qu'il est égal. Là.
Fait que tout Antoine, le monde... si tu veux juste un conseil, fais juste attention au personnage de Ian Richards pour ça.
ça m'inquiète pas trop. Écoute, de toute façon... C'est pas Alien, là, ça. Là.
Non, c'est ça. Je veux dire, mais tu sais, quand même, on a juste un body là-dedans. On n'a pas de. On a un Némésis, mais il est à l'extérieur. Fait que c'est quand même.
Disons que ça diminue un petit peu le risque, je dirais, à l'intérieur du vaisseau, mais on ne sait jamais, quand même. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, la configuration du vaisseau le reflète vraiment qu'on est une petite gang, tu sais, serrée, puis qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Tu sais, la portion loisir là, dans ce qui était la suite avant, c'est vraiment pour se regrouper, pour avoir du fun ensemble, puis la salle de réunion aussi, pour qu'on puisse prendre nos décisions en commun. Je sais qu'on a, en termes d'armement, on a un canon accélérateur, ça se trouve être un range médium avec un bonus de plus 1, dommage 1. On a aussi des contre-mesures, là, c'est-à-dire qu'on peut lancer des affaires pour que, j'imagine, des missiles aillent là-dessus au lieu de sur notre vaisseau. C'est pas mal tout ce qu'on a présentement comme armement. Là. Je pense que ça peut s'upgrader dans le futur. Sinon, le reste, ben, nous, on avait choisi le Express Freighter parce qu'il y avait des faulty thrusters. Donc, il y a toujours une possibilité quand on essaye de partir ou de faire une manœuvre que quelque chose cloche. Là. C'est ce que je comprends.
Ça va sûrement pas arriver au pire moment.
Mais je me rappelle dans la dernière discussion qu'on avait eue sur le choix du vaisseau qu'on avait choisi celui-là plutôt que l'autre qui avait un turbopropulseur, sauf qu'il y avait des problèmes de senseurs. Fait qu'on préférait avoir des senseurs qui marchent comme il faut que... on s'est dit qu'avec un DM comme Benoît, ce serait plus utile des bons senseurs que de pouvoir partir.
On va les voir venir, ils vont pas partir.
Ben, c'est ça. Fait qu'au moins, on va les voir venir. Fait qu'on va avoir le temps de prier avant une mort certaine. Voilà. Fait que,
dans notre chapelle.
On a quand même une bonne dette, hein, de un petit peu plus de 790 000 birres sur notre vaisseau. Mm-hmm. En termes de modules là-dedans, fait qu'on a un docking station qui, j'imagine, est en dessous, là, mais j'ai pas vraiment vu comment ça fonctionnait. Cabine, chapelle, medlab, deux cargo hold, un qui est, en fait, il est tout sur le niveau 4, si je me trompe pas, ou 1 plutôt.
Ouais, 4
sur le, ouais, c'est ça, tout sur le niveau 1, sauf qu'il y en a comme une qui est plus petite surélevée, puis une plus basse qui a vraiment les gros morceaux dedans. On a un stasis hold qui est dans le fond tous les espaces cryogéniques, mais je comprends qu'on en a deux, hein, d'après les plans. On a un workshop
qui va être proche de l'engineering room.
Exactement, qui a été rapetissé pour pouvoir. Là, c'est moi qui ai fait les modifications, mais pour pouvoir accommoder du cargo secret. Je me suis arrangé pour mettre au moins une grosse caisse dans ce compartiment secret-là. Il y en a un autre qui est plus petit, près des cabines, mais là, ça serait vraiment soit pour des petits items ou peut-être une ou deux personnes, gros max, debout, là, fait que même pas couché. On a notre countermeasure dispenser qui est le c'est le dispenser là, en français, le en tout cas, les contributeurs. Ouais. Le distributeur de contre-mesures. Voilà. Et le canon accélérateur qui sont l'ensemble des modules. Dans les features, on a l'entrée atmosphérique. Donc, c'est un vaisseau qui peut entrer sur l'atmosphère d'une planète.
Toujours pratique.
Oui, c'est ça. Il n'est pas obligé de rester en orbite. Il y a des senseurs très sensitive, très, très précis. Sensible. Et un turboprojecteur. Alors, ça fait le tour, hein, je pense que.
Hey, les gars, je voulais juste. Non, vas-y.
Non, j'allais dire, est-ce qu'on a deux types de canons, mais est-ce qu'on a deux canons qu'on peut shooter en même temps ou c'est un à la fois?
Non, on a un canon.
L'autre. On a deux gunners, par exemple.
Ouais, c'est ça.
OK. Moi, j'ai vu
pourri, l'autre prend la
un canon accélérateur, puis il n'y a pas de S, là. Fait que.
Je pense que pour avoir deux canons...
c'est la classe supérieure, je me souviens.
C'est ça. Il aurait fallu aller sur la classe supérieure.
on achète un autre un moment donné. Là.
Ben, c'est ça, où on achète un autre un moment donné. Je pense que, ça, si je ne me trompe pas, c'est autour de 20-25 000 là, pour un ajout comme
pour
ça.
Pour une dette de 800 000, ça paraît pas.
Ben, c'est ça. Ouais, c'est comme ajouter ça sur l'hypothèque. Là. C'est pas très ça.
Mais on va commencer à vendre nos artefacts, ça va aller mieux.
On a deux gunners. On a Desmond, le personnage de Martin, puis celui de Vincent, Kieron.
Ouais, fait qu'il y en a un des deux qui fera malheureusement rien. Là,
OK.
Ouais, ben, c'est ça. Moi, je regardais le crew de la manière qu'ils sont faits. Comme, j'ai pas été dans le détail là, au niveau du pilotage vaisseau, capitaine, etc. Mais, tu sais, il y a comme cinq positions là-dedans. Puis là, ben, j'en prends deux, je sais. Oui, j'avoue que je sais pas avec les deux gunners. Mais là,
techniquement, quand t'as plusieurs guns, tu peux avoir plusieurs gunners. C'est ça.
C'est ça. Exactement.
Mais Martin, toi, ton perso, y a-tu des skills de first aid, là, mais...
Oui.
Ouais?
De heal, oui.
Bon, fait que tu peux être comme le medic, dans le fond. Là.
Oui, ben c'est principalement ça. C'est juste que comme mes traits d'agilité étaient là, je me suis mis des points au niveau gunner. Je savais pas que Vincent le prendrait. Ouais. Mais on va juste être plus efficace. Tout aussi simple que ça.
Ouais, il peut t'aider.
Puis c'est ça, tu sais, on a quand même le MedLab puis le workshop là, qui peuvent accommoder des gens de science. Alors, si jamais vous avez autre chose à faire, de toute façon, on n'aura pas besoin du gunner tout le temps.
L'affaire qui est cool avec le workshop aussi que j'ai lu, c'est que je peux réparer vos items s'il y en a qui se brisent, ouais. Mettons, ouais, ou les modifier éventuellement si on a assez d'argent. Exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, un rifle, mais je pourrais mettre un scope dessus, genre pour avoir un meilleur range ou une meilleure habileté en tant que technicien. Je suis plus technicien et ingénieur que c'est ce que j'ai pris comme scientifique. Là.
Ouais, puis il y a possibilité aussi que tu fasses, par exemple, du matériel. Tu sais, vous ramassez du junk, par exemple, que tu puisses prendre ce junk-là puis le transformer en quelque chose d'utile, là, tu sais.
Ouais. C'est que je vais juste dire, moi, les gears que j'ai choisi au début aussi, ça peut être pratique, là.
Ah oui,
j'ai Tools Advanced.
Ouais, j'ai la même chose.
J'ai Pressure Tent. Ça veut dire que si on va sur une planète et on est mal pris ou quelque chose, c'est une tente qui s'installe, puis on peut dormir quatre dedans. Avec l'oxygène, tout, s'il y a du gaz nocif, ça le filtre, puis tout, puis ça aide aussi, puis la température, pour qu'on puisse dormir.
J'ai mon exo. On est cinq, mais
c'est correct. Ouais, ben, tu sais, dans le livre, c'est quatre. C'est dit peut-être que le capitaine, il va rester dans le vaisseau, je sais pas. T'sais.
Ben, il est tout petit, ok.
Ouais, ceux qui sont plus petits, on se collera. qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pris, c'est ça, mon exo shell. J'ai un portable lab. Comme ça, si mettons pour faire des analyses ou réparer des affaires, j'ai un communicateur, mais juste un niveau 1. C'est vraiment plus proche, là. C'est pas un qui fait 100 km. Puis un proximity sensor qui était super cool pour des explorateurs. Là. J'installe ça, puis ça fait une map. C'est vraiment là, comme un peu comme ceux qui ont joué dans Gears of War, là, ça enlève de quoi, puis là, ça fait comme un scan complet de où ce qu'on est.
Ah, c'est cool.
C'est vraiment une bonne idée.
Ouais. Ouais.
Ouais, les autres, c'est des gens avec des drones avec connectés à un fil comme dans Alien.
Ouais, c'est pas des technologies des années 80 dans l'avenir, là, ouais, c'est ça.
Yann, c'est une bonne idée. On peut peut-être faire le tour des autres pour leur matériel, leur gear.
Mm-hmm. Ouais, moi, dans le fond, je vais compléter Yann principalement parce qu'on est sensiblement on est deux scientifiques, donc on a sensiblement un peu le même gear. Moi, j'ai un proximity sensor aussi. Toi, t'avais lequel?
Ben, celui-là qui vient avec le kit, là, celui-là, en active mode, là, c'est extreme range. Ça fait Terran Forest, tout ça. Puis, ça me donne un boost en technologie aussi, là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, là, pour find hidden things in the surrounding.
OK. Fait que je pense que j'avais la même chose à ce niveau-là. Moi aussi, j'ai un portable lab. J'ai une trousse de medkit avec 10 doses. J'ai des tools advanced. Donc, si on veut réparer, là, on peut le faire aussi. Moi, j'ai pris aussi un environnement scanner, fait que c'est vraiment de voir l'environnement. T'sais, moi, c'était plus au niveau survie, fait qu'on va être capable de savoir ce qu'il y a dans les alentours. Des lunettes, donc des binoculars. Puis j'ai un communicateur, mais moi, c'est un long range, donc un niveau 3.
OK.
Ça, c'est ce que j'ai comme bébelle. Sinon, j'ai dans les ce qu'on appelle les tiny items, j'ai une corde de 50 mètres, un compas. Une base de données ultra poussée au niveau des recherches, donc des recherches d'artefacts, c'est plus 3. Une de différentes rations puis des batteries.
Tu as rentré ça dans Tiny parce que dans le livre, là, ils décrivent que Tiny, il faut que ça tienne dans la paume de ta main quand tu fermes.
Oui, mais quand tu regardes la description, c'est Tiny. Okay. Probablement que la database, ça doit être comme une clé.
Oui, non, mais je pensais à la corde, surtout une corde de 50 corde mètres.
Oui, mais elle est extrêmement petite. Puis tu sais, okay. Ils disent dans le fond que ça te tranche la main si tu n'as pas tes gants.
Ah, ben c'est bon à savoir. Okay.
Oui.
OK.
Ben j'ai les gants avec.
Non, c'est beau.
J'ai le temps d'escalader, ça.
Oui, oui.
T'es gant? Non!
Shit! Ouais. Tu mets ça autour de la taille, puis.
Je t'apprends ton coup, puis je te montre.
OK. Vincent, qu'est-ce que t'as comme gear, toi?
Ouais, moi, au niveau de mon gear, j'ai aussi l'environment scanner, comme Martin. Sinon, j'avais des M-doses, qu'on a comme défini comme étant des genres de medkits, si je me trompe pas. C'était ouais. Ça, hein, je pense. Ouais. Ouais, j'en ai 5. Sinon, j'ai aussi une amélioration cybernétique, weatherproof. Donc, pas trop d'impact au niveau de la température qu'il va y avoir sur les différents endroits qu'on va aller. Sinon, j'ai une arme. J'ai le Vulcan Carbine.
Uh-huh.
Et, moi, j'ai le cricket.
C'est un shot.
Moi, j'ai un pistol.
Ça s'appelle un cricket. Un Vulcan
cricket.
Ouais. OK. Parfait. Puis sinon, j'ai un Wrecking Drone aussi qu'on peut utiliser.
Oh, nice.
Ouais, okay. Ça va être quand même pratique, d'après moi.
Ça avec un fil, lui?
Oui.
Il faut que tu suives avec la manette en arrière.
Il y a 5 minutes de pile.
Oui, 5 minutes de pile, puis un fil de 3 pieds. C'est super pratique.
Qui décolle. Ti-di-ti-ti-di-ti.
Ouais, puis ça se recharge avec un vieux fil port parallèle des années 80.
Oui, c'est le fameux fil que j'ai connu. Oui,
c'est ça. Ouais. OK, cool.
Voilà.
Et JP, toi, qu'est-ce que tu avais comme gear?
Moi, j'ai un implant cybernétique, le Niala Sonar Implant X6. Ça, c'est un genre de active sensor. Essentiellement, okay. Qui sont implantés directement dans mon corps. Je me suis dit que ça faisait du sens avec le rôle que je jouais dans le vaisseau. Mm-hmm. J'ai un Communicator Mark IV. Fait que ça, c'est un.
C'est le gros, là.
Ouais, c'est le plus gros. En fait, c'est celui que tu peux. En orbite, tu peux communiquer avec pas mal n'importe qui sur une planète, tu sais. Ça se transporte dans un genre de
sac à dos,
genre. Ouais, un genre de sac. Puis tu sais, ça prend des cellules d'alimentation pour faire fonctionner ça. C'est vraiment une grosse affaire. J'ai un ordinateur. J'ai un transactor qui est comme un genre de portefeuille du futur. Là. Dans le fond, ça me donnait 1000 birres de plus, donc 1000 argent de plus dès le début de la game. J'ai du Opor qui est essentiellement de la drogue du futur.
Je ne sais pas pourquoi. Tes personnages, ils ont tout le temps de la drogue.
Il y a un batteur. J'ai des lockpick mécaniques aussi. Okay. Dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est que normalement, si tu essaies d'ouvrir une porte dans le jeu, si t'as pas, tu peux improviser, mais ça donne un malus. Sauf que ça, t'as pas de malus avec en utilisant des lockpicks essentiellement. Puis, nice. J'ai une tablette de sécurité aussi. C'est pour comme craquer les systèmes, genre même principe que les lockpicks, mais avec les systèmes informatiques, c'est que ça t'enlève ton malus quand tu essaies de craquer de quoi. Comme j'ai dit, j'ai un Vulcan Cricket, puis j'ai des vêtements de protection vu que je suis pas très très fort. Donc c'est ça.
Cool.
Et ton surnom, c'est le Doorman.
Le Doorman, c'est très bon ça.
Ah, c'est bon.
Ouais, j'aime ça. Cool. Le seul problème, c'est que je suis pas physiquement inapte à faire quoi que ce soit par rapport à
un Doorman. Ouvre toutes les portes.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Le serrurier, hein, pour dire ça. Vite de même, moi j'ai un talisman qui me donne plus 1 au pilotage. J'ai vraiment tout mis dans le pilotage. Je me suis dit que ça serait potentiellement important. Fait que j'ai été plus là. J'ai été plus là que dans le commandement, mais le talisman, c'est mon seul tiny object, là, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai un handjet, ça me donne un plus 1 de dextérité dans le zero gravity. Là. Fait que quand on est en apesanteur, j'ai ça qui me permet premièrement de me déplacer partout dans le vaisseau, mais aussi qui me donne un plus 1. J'ai un targeting scope qui est mon œil cybernétique. Qui me donne un plus 1 au range combat. Et mon letter fly suit qui est mon item mon à peu près seul vêtement et qui doit sentir assez bizarre, surtout qu'il vient de mon grand-père. Sinon, je me suis ajouté avec le peu d'argent qui nous restait parce qu'on n'avait pas tant de moyens que ça. Hein. Je me suis ajouté un communicateur classe 2, fait que c'est un petit mid-range. Et fait que là, je comprends là avec toute la gang qu'on a toutes les sortes de communicateurs. Fait que on va être grillé pour toutes les situations. Et je me suis pris aussi les outils ordinaires. Fait que comme ça, je peux faire des petites réparations d'urgence. Ça fait le tour?
Toi, Ben, c'est quoi t'as comme équipement?
Ouais, j'ai pas mal tout l'équipement que je veux.
Ouais.
OK. Je vais peut-être juste faire un petit retour là, sur le lore rapidement là, pour vous remettre un c'est peu bon. Dans l'esprit. Peut-être aussi vous rappeler quelques règles de base là, pour le fonctionnement. Comme ça va vous rafraîchir la mémoire là, assez rapidement. Puis certaines mécaniques particulières là, du jeu. Donc, faut comprendre que Coriolis, le lore qui est en arrière de ça, en fait, faut se ramener à des milliers d'années. Là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je m'excuse, c'est pas le COVID, c'est je me suis étouffé tantôt en buvant de l'eau. Donc, il y a dans la planète qui s'appelle Halda... pardon. Je m'excuse. Ça passe mal. Al-Arda, qui est en fait donc la place où l'humanité était, à un moment donné, il y a eu une volonté de sortir un peu de cette planète-là parce que les ressources commençaient à être très, très rares. Donc, on a regardé vers l'horizon, vers ce qu'on appelle finalement au-delà du grand noir. Et on a commencé à envoyer des vaisseaux spatiaux un peu partout. Dont le deux vaisseaux particulièrement intéressants pour l'histoire ici, soit le Nadir et le Zénith. Donc le Zénith qui est considéré comme étant le Coriolis là, finalement là, qui est la
c'est ce qui a fait ben, c'était la base du Coriolis. Hein?
Ouais, exactement. Donc, c'est ce qui a mené à cette grande base-là qui est maintenant un des éléments les plus importants de la population qui est présente dans le troisième horizon, donc le Three Horizon. C'est généralement appelé l'horizon. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc il y a eu tous ces vaisseaux-là qui sont partis. Le Nadir et le Zénith ont continué leur route en espérant se rendre dans une... vers une étoile qui avait été identifiée. Et puis, pendant ce temps-là, donc pendant ce voyage-là qui allait durer des milliers d'années, vous avez des gens qui sont revenus sont donc revenus à Al-Arda et ont dit, écoutez, on a trouvé des portails qui permettent de se déplacer beaucoup plus vite. Donc, on a les gens d'Al-Arda, donc... penchés sur ces portails-là et ont finalement trouvé la façon de les utiliser de manière sécuritaire. Donc, de manière sécuritaire, et je fais une parenthèse là-dessus, mm-hmm. Vous ne pouvez pas passer un portail en étant lucide. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez absolument en
cryogénisé.
Ouais, c'est ça. Donc, il faut absolument être cryogénisé parce que sinon, il y a des maladies possibles, dont des folies, des choses comme ça. Donc, ça fait en sorte que c'est un prérequis pour pouvoir les utiliser. Et il y a des coûts aussi pour faire les calculs, tout ça. Donc, souvent, vous pouvez les faire vous-même, les calculs. C'est plus risqué, mais... souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des caravanes qui vont passer ensemble. Ils vont donc s'organiser ensemble pour essayer de splitter les coûts pour éviter d'avoir à payer le coût qui est assez important. On parle d'environ 5 à 10 000 birres, là, tout dépendant le portail. Et ces portails-là permettent finalement le voyage de planète en planète. Et de système à système. Mais, là, je retourne au lore, il y a eu donc Al-Arda qui a envoyé d'autres vaisseaux, puis là qu'on a commencé à coloniser à l'extérieur en passant par ces portails. Et finalement, s'est construit le premier horizon. Le premier Horizon était finalement la grande première colonie des gens d'Alarda. Et bon, cette construction-là s'est colonisée, a bien été, a commencé à prendre l'expansion. Et l'expansion s'est dirigée vers le deuxième Horizon. Donc, deuxième Horizon qui était un autre système qui lui aussi s'est construit, a été grandement colonisé. Et puis, à un moment donné, il est arrivé des tensions entre ces deux colonies-là, si vous voulez. La première était beaucoup plus autocratique, très axée sur le déploiement militaire. La deuxième était beaucoup plus apportée sur le commerce et le développement et la colonisation accélérée. Et il y a des gens qui ont commencé à trouver que les tensions entre ces deux horizons-là, ça faisait plus de sens, puis c'était un peu complexe. Et donc, on a décidé de partir et de créer le troisième horizon, l'horizon dans lequel vous êtes. Et c'est d'ailleurs dans les éléments de faction, là, vous avez la faction des Parias. C'est la première faction qui s'est installée dans le troisième horizon et qui a créé cet élément-là parce que considérait que les deux autres horizons, ça n'avait pas d'allure puis ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est déployé, c'est construit et aussi a fini par prendre un peu d'expansion. Là, à un moment donné, les tensions sont devenues extrêmement grandes entre les trois horizons et ça a mené à des guerres particulièrement violentes. Le troisième horizon a fini par repousser les belligérants provenant des deux autres horizons, mais a malheureusement eu pour effet de briser un des portails qui permettait le voyage vers les deux autres horizons. Donc, à partir de là, le troisième horizon est devenu complètement isolé. Il n'y a pas de possibilité pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas trouvé moyen de faire des réparations puis de trouver comment ça fonctionne. C'est vraiment une technologie ancienne qui ne contrôle pas du tout. Et,
est-ce qu'on sait un peu c'est qui les a faites, un peu comme dans Mass Effect là, avec les précurseurs?
Pas tant, non.
On ne l'a jamais su?
Non.
OK.
Donc...
Par une analogie, c'est un peu genre les portes de Stargate. Là.
Ouais, un peu dans le genre.
On l'a, puis on ne sait pas d'où c'est qu'ils viennent, mais on est capable de les utiliser.
Ouais, exactement. C'est un peu le même principe.
Ben, pour vérifier si ma compréhension est bonne, là, c'est que les horizons, là, dans le fond, plus on avance dans les chiffres, plus ils sont en périphérie, il me semble.
Ouais, ouais, exactement.
L'horizon 3, c'est un peu comme le Outer Rim là, dans, mettons, Star Wars.
Exactement. Donc, dans le fond, c'était lui qui était le plus loin. Puis ça, c'est des systèmes qui fonctionnaient ensemble. Donc, vous avez des portails qui vous permettent de voyager d'une planète à l'autre là, dans ces éléments-là. Donc, ce qui vous permet d'éventuellement couper vos temps de voyage parce que une planète à l'autre dans votre système, dans l'horizon dans lequel vous êtes, ça prendrait beaucoup de temps. Là, donc,
OK.
Donc, c'est ça, est devenu un peu isolé et ça a amené à ce qu'on appelle la longue nuit. La longue nuit est essentiellement une grande grande récession parce qu'il y avait beaucoup de commerce qui se faisait entre les différents horizons. Puis là, ça a changé complètement la vision du troisième horizon. Beaucoup de gens qui ont eu des grandes problématiques, ça a amené à des famines, des épidémies, ça peut faire changement.
Comme un gros confinement.
C'est le fun de jouer à ce jeu-là pour sortir de la réalité. Là,
ben ouais.
Ben, c'est pour ça que tu as fait un hacker. Hein?
Il y a un peu de ça.
Donc, mais on finit par reprendre un peu du momentum, puis on finit par se replacer. Donc, la société a fini par se réajuster à cette nouvelle réalité-là. Et donc, le Zénith est arrivé après tout ça. Donc, le Zénith qui n'avait pas employé les portails, lui, il était parti comme faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Ça y a donc pris des milliers d'années avant de se rendre à l'endroit.
C'est un voyage spatial traditionnel.
Exactement. Sans utiliser les portails. Donc, était l'étoile de Dabaran, en fait. C'est cette étoile-là qui avait été visée par les gens d'Alarda. Et donc, en arrivant là, a vu ces gens-là qui étaient installés, qui venaient de vivre des problématiques, avaient déjà une société en place, et les Initiens, parce que Nadir a été perdu en chemin, ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'est passé avec le vaisseau de Nadir, mais les gens du Zénith ont donc fini par s'installer à l'endroit, en ayant suivi différentes tensions. Maintenant, il y a comme un équilibre précaire, mais présent qui existe, fait en sorte que cette société-là fonctionne. Vous avez également une arrivée qui a choqué un peu tout le fonctionnement, là, c'est l'arrivée des émissaires. En fait, les émissaires, c'est une espèce d'énergie qui s'explique mal. Hein? Dans Coriolis, vous avez beaucoup des éléments très mystiques. C'est un peu un mélange entre du mysticisme, de la science-fiction, des éléments qui ressemblent un peu à Dune, par exemple, mélangé avec de la mythologie moyenne-orientale. Donc, les émissaires sont arrivés, ces espèces de géants de gaz, d'énergie, qui se sont surtout installés autour de la planète Xen. Et ils appellent essentiellement les fantômes venus d'un autre monde. Et ça a créé toutes sortes de problématiques. Il y a des gens qui ont eu des maladies particulières, des gens qui sont devenus fous, des gens aussi qui ont développé des pouvoirs. Donc, c'est comme devenu un peu un élément de très, très poussé au niveau du mysticisme. Et ça a généré des éléments aussi de religion en lien avec ça. Là. Sinon, par rapport aux mécaniques, juste vous rappeler, quand vous faites des jets, vous pouvez toujours, parce que étant donné qu'il y a la présence des icônes et de la religion est importante dans ce jeu-là, vous pouvez toujours faire appel à votre icône si vous manquez un jet. En faisant appel à votre icône, ce que vous faites, c'est que vous rejetez tous vos jets qui n'avaient pas de 6. Donc, par exemple, si vous avez besoin de faire un jet qui ça vous prend un succès puis vous en avez aucun, c'est pas un problème. Vous pouvez dire je fais une prière aux icônes et vous rejetez tous vos dés. Par contre, ce que ça fait, c'est que moi, ça me donne un point noir, un darkness point. Et le point noir peut être utilisé quand j'en ai envie pour vous foutre le bordel. En fait, c'est comme si j'altérais la réalité d'une certaine façon. Puis ça fait un peu partie du mysticisme. C'est un peu comme si vous aviez une partie des émissaires qui venaient jouer sur votre réalité puis sur votre capacité à fonctionner. Donc, évidemment, tout dépendant du niveau de bordel que j'essaye de foutre, ça va me prendre des points en conséquence. Donc, un seul point, ça peut avoir des petits effets fatigants, mais ça n'a pas tant d'effets. C'est sûr que si vous m'en mettez une quinzaine entre les mains, ça peut-être être problématique éventuellement. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser non plus.
Mais
tu sais, c'est que souvent, c'est un élément aussi qui peut permettre de faire avancer le narratif d'une certaine façon aussi.
Ou si on décide qu'on n'est pas assez dans la marde.
Oui, c'est ça. Si jamais vous voulez vraiment foutre dans le bordel.
C'est que quand on va trouver que ça va vraiment juste trop bien et que ça n'a pas d'allure, faudrait qu'il se passe de quoi.
Non, savoir quoi faire. Tu utilises ton ion pour faire le meilleur café qu'il n'y a pas dans les
Là, je suis pilote et capitaine, j'aurais pas le temps de faire du café.
Effectivement.
Il va falloir que quelqu'un d'autre s'y mette.
Juste sur les factions. Donc, les factions zénithiennes, vous avez le Consortium, le Free League, la Légion, le Syndicat et le Zenithian Hegemony. Donc, le Consortium, c'est essentiellement des éléments très axés aussi sur le marchandage. Le Free League était très poussé sur le commerce. La Légion, c'est essentiellement des mercenaires et des soldats. Le Syndicat, c'est la criminalité. Zenithian Hegemony, c'est des gens qui sont vraiment dans l'idée qu'il faut faire en sorte que les Initiens prennent le pouvoir par rapport aux autres factions, parce que vous avez la faction de ce qu'on appelle les First Come, les premiers arrivants. Les premiers arrivants qui sont donc les gens qui ont fondé la Troisième Horizon. Donc, vous avez le Alam's Temple, donc le Temple d'Alam, les Draconites, l'Église des Icônes, l'Ordre du Paria, qui est en fait les premiers fondateurs, et puis la Fédération Nomade. Je pourrais vous donner plus de détails un peu plus loin là, si ça vous intéresse, mais c'est pas pour l'instant, là, c'est pas super utile. On va peut-être en parler au fur et à mesure que l'aventure va commencer. Est-ce que vous voulez prendre une pause avant qu'on commence tout ça, là, une fois que l'introduction est terminée, ou on y va tout de go?
Moi, je suis prêt.
Parfait.
OK.
On commence ça. Donc,
dans le fond, j'allais dire, rafraîchissez votre page. J'ai updaté vos icônes.
OK, fait que ça, dans le fond, Martin, t'écoutais pas pantoute ce que Ben disait.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je comprends. Toujours utile.
Ah, t'es pas sûr.
OK. Antoine, vous êtes à vos postes de pilotage et puis là, ton calcul a mal été, fait que va falloir que vite que tu me fasses un jet de pilotage. Puis parce que là, ton calcul a fait en sorte que vous arrivez très proche du soleil. Là. Fait que ton vaisseau risque de manger des dégâts assez importants.
Quand tu te rapproches de ton micro, ça griche un peu. Je sais pas si je suis seul, là, mais.
Non, ça griche effectivement.
Ah ouais? OK, je vais l'enculer un peu.
De toute façon, ta voix porte bien, mon Ben.
Ouais.
Bon, tu veux que je fasse un jet de pilotage?
Ouais, s'il vous plaît.
J'ai deux succès. Ben, deux succès, c'est même mécanique que Aliens, là, fait que c'est des six que ça prend.
Ouais.
Okay. On a-tu un super succès comme dans Alien?
Ouais, tu peux. Si ça te prend trois succès. Trois crits. Puis tout dépendant aussi, là, si par exemple c'est avec une arme, c'est marqué dans ton arme à côté quel est le niveau de critique qui est nécessaire. Comprends-tu?
Yes. Ouais, comme moi, mon Vulcan Cricket dans Critical, c'est deux, ça veut dire que ça me prend deux, six pour avoir un Critical.
Exactement. OK. Donc, tu finis par te stabiliser un peu. Par contre, ce que vous vous rendez compte, là, c'est que vous êtes exactement dans le milieu d'une volée de météorites. Donc, en fait, non seulement tu étais proche de l'étoile, mais en plus, t'es débarqué directement dans l'élément de météorite. Là. Donc, il va falloir que tu me fasses un jet de pilotage et puis nécessairement, ça va jouer sur la quantité de dégâts que tu vas avoir sur ton vaisseau.
Conseil, ouvre les yeux.
Attention à mon vaisseau.
J'ai trois succès, mon cher.
Trois succès, OK. Fait que vous entendez quelques météores frapper sur la coque ça vous fait... vous avez deux dégâts là, qui viennent... planté dans votre vaisseau. Il y a probablement des réparations qui vont être à faire. Et puis, je vais vous montrer un petit truc.
C'est-tu des all points ou c'est des energy points? C'est quoi la différence entre les deux? Énergie, c'est plus des trucs dans électronique, des trucs comme ça?
Ouais, fait que ce que vous. C'est des.
De l'armure, sûrement, qui peut aussi résister une couple de dégâts. Là.
Ben, le all, c'est carrément l'armure physique, là. C'est notre bordure.
Non,
ouais,
mais je vois que notre armure est
5. OK, fait que dans le fond, tu sais 5D. Tu sais 5D, puis chaque D va t'enlever un dégât.
Eh oui, c'est la fin de ce premier épisode de Ça s'en vient, il va y en avoir d'autres, inquiétez-vous pas. Fin du podcast des drôlistes pour aujourd'hui. Et oui, ça va vite. Ça va vite, mais écoutez, on va en avoir d'autres. Puis je vous rappelle, hein, on va avoir des petites vacances bientôt. Ça va se faire fin juillet et début août. Ces vacances serviront essentiellement à recharger les piles qui sont passablement vides en ce moment. Je peux vous dire, il est pas mal fatigué le bonhomme là. Dure année, on a beaucoup de défis cette année, là, donc c'est particulier. Et puis, on a besoin de recharger ces piles-là. Mais oui, il n'y aura peut-être pas d'épisode durant cette période-là. Peut-être aussi, pour voir comment je file, peut-être qu'il va y avoir des petits trucs spéciaux pour les abonnés. Et puis, je me promets de faire aussi d'autres concours. Puis d'ailleurs, une fois que l'infrastructure sera payée, là, je pense que ça va pas mal être ça, là, les montants de Patreon là, que vous allez nous donner, là, ils vont servir à payer des petits trucs là, aux joueurs, soit des nouveaux jeux, des choses comme ça, mais aussi faire des concours. Comme ça, ça permet de redonner à notre communauté et faire en sorte que l'on peut vous redonner un petit peu de trucs. Et puis, ben, financer d'autres projets. Hein, t'sais, c'est sûr qu'une fois que la pandémie sera terminée, on commencera à regarder pour faire des lives. Je sais que ça a été demandé. Ça m'a été demandé souvent, puis c'est quelque chose que ça m'intéresse. Donc, ça sera peut-être le genre de truc que l'on fera. Ah, et oui. Et puis, en attendant, ben, si vous voulez nous écrire, hein, drolis@gmail.com. Il y a également Drolis sur sur Twitter. On est sur YouTube aussi, mais pour l'instant, pas vraiment de vidéo. Également la page Facebook Les Drolis, c'est également Patreon. Et puis, d'ailleurs, sur Patreon, je voulais juste vous mentionner, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont abonnés à Patreon et puis ça ne fonctionne pas. Écoutez, je crois que le problème, c'est qu'en fait, maintenant, sur Patreon, avant, ce que je faisais, c'est que j'uploadais l'épisode directement sur Patreon. Et puis, ce que ça me créait comme problématique, c'est que je n'avais pas de statistiques sur Patreon sur le nombre de téléchargements qui étaient centralisés à travers ma plateforme de podcast. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'upload le podcast sur la plateforme de podcasting qui est Anchor. Et à partir de là, Anchor me fournit un lien qui s'en va sur Patreon. Et donc là, sur Patreon, ce que c'est simplement un relais. Et j'ai l'impression que ça a comme changé certains éléments, puis il y a des personnes qui sont plus capables de télécharger. J'essaie de trouver une solution, là, savoir comment ça pourrait fonctionner autrement. Évidemment, moi, mon objectif, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible là, pour ne pas avoir à uploader des affaires à 3, puis 4, puis 5 places différentes. Là. Donc, Anchor me permet de faire ça. Donc, j'essaie de voir là, comment je pourrais fonctionner avec Patreon là, pour m'assurer que ça ne fasse pas ce genre de glitch-là, que les gens puissent continuer d'avoir l'abonnement, même s'ils sont à travers Patreon. Puis l'autre chose que je crains, évidemment, c'est si je fais un épisode qui n'est pas public, qui est seulement pour les abonnés de Patreon, comment ça fonctionne. Bref, je suis en train d'essayer de trouver une solution. Je suis pas un développeur web, hein? C'est pas ma job dans la vie. Je suis plus en sécurité de l'information, en sécurité, donc c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Je fais pas ça à journée longue. Et puis, je dois dire que j'ai pas nécessairement pour la patience très, très développée pour ce genre d'affaires-là. J'aime coder, mais j'aime pas gosser avec des affaires de RSS. Je sais pas pourquoi, là, mais ça, c'est comme comme l'équivalent d'avoir un mal dedans pour moi. Là. Ça, c'est le genre d'affaires qui me gosse de manière importante. J'essaie de trouver une solution, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a une idée, faites-moi signe. N'hésitez pas à m'écrire drolis@gmail.com. On va essayer de trouver une solution ensemble si jamais vous êtes plus spécialiste de cette question-là. Et voilà. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, hein, parce que c'est une période bizarre. Et puis, Dieu se sait que c'est dangereux. Faites pas chier les gens hein, si vous oubliez votre masque. Là, c'est important. C'est important pour vrai. C'est juste que vous n'avez pas besoin de mettre votre coude. Là. Ou si, mettons, que vous avez besoin de tousser ou d'éternuer, ça va faire l'équivalent de votre coude de plus rapidement et plus efficacement. C'est essentiellement pour ça. Et oui. Donc, je vous dirais, en Asie, ils portent le masque depuis des années. Hein. Ça fonctionne très bien. Il y a des samouraïs qui se promenaient avec des masques à l'époque. Donc, ça allait très bien. Pas une mort par le masque. On vous souhaite une excellente écoute. Encore une fois avec nous, on vous remercie d'avoir été là. Puis, on s'en passe un peu. Bye bye!